BW. Vue d'Allemagne.
Faut-il limiter le nombre de mandats du chancelier pour favoriser l'alternance démocratique en Allemagne ? C'est ce que propose la candidate des Verts aux législatives de septembre, Annalena Baerbock, alors que l'ère Merkel touche à sa fin. En deuxième partie de ce magazine, reportage à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, où des milliers de mineurs non accompagnés attendent d'être fixés sur leur sort, rejoindre leurs parents ou être renvoyés chez eux. Vous écoutez Vue d'Allemagne, Anne Le Touzé au micro, Willkommen et bienvenue. Angela Merkel ne sera pas candidate le 26 septembre, mais même sans cinquième mandat, elle fait déjà partie des chanceliers qui seront restés le plus longtemps au pouvoir en Allemagne. Au moment des élections, elle y aura passé 15 ans, 10 mois et 4 jours, selon un décompte de l'hebdomadaire Der Spiegel. C'est trop long, selon ses adversaires, mais aussi selon des membres de son propre parti, la CDU. Et le débat est relancé en Allemagne sur une limitation du nombre de mandats du chancelier comme remède à la longévité. Un débat que comprend Hans Stark, il est professeur de civilisation allemande à la Sorbonne.
On peut, entre guillemets, reprocher à l'Allemagne de ne pas avoir instauré une date de péremption pour ses chanceliers. Donc, on a eu en Allemagne très grande longévité des chanceliers. Adenauer d'abord est resté au pouvoir pendant 14 ans, de 49 à 63, puis Kohl pendant 16 ans, de 82 à 98, et maintenant une nouvelle fois Merkel de 2005 à 2021. Alors les mandats ne sont pas longs parce que ce sont des mandats de 4 ans, mais c'est une multiplication de mandats successifs.
Le problème de cette multiplication des mandats, c'est non seulement l'absence d'alternance, mais aussi le fait que la succession est difficile pour le parti du chancelier ou de la chancelière, resté trop longtemps au pouvoir. C'est ce qu'on a vu récemment avec la lutte entre Armin Laschet et Markus Söder pour la candidature du parti conservateur. Alors la limitation du nombre de mandats pour la chancellerie pourrait-elle être une solution ? C'est donc ce que propose Annalena Baerbock, candidate du parti des Verts, dans le cadre d'une vaste réforme parlementaire. Une proposition qui s'inscrit dans la tradition du parti écologiste. Les Verts sont habitués à un système de rotation et ils ont même une direction à deux têtes depuis 2019. Une commission parlementaire planche même sur le sujet et devrait rendre ses conclusions après les élections. Mais pour Christian Tomuschat, professeur de droit international à l'université Humboldt de Berlin, il n'est pas envisageable de limiter les mandats d'un chancelier en Allemagne.
Nous vivons dans un système parlementaire. Et donc, il y a cette combinaison entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Chez nous, le chancelier a besoin de l'appui d'une majorité au sein du Parlement. Autrement, il ne peut pas exister. On ne peut pas enlever à la majorité parlementaire de faire une décision sur la personne du chef du gouvernement dans un système parlementaire.
Un système parlementaire et non présidentiel, c'est ce qui différencie l'Allemagne de pays comme la France, les États-Unis ou la plupart des pays d'Afrique francophone. Selon la Constitution de 1949 qui régit la République fédérale, le chancelier est en effet élu par le Parlement et il n'a que des pouvoirs exécutifs limités, poursuit le constitutionnaliste Christian Tomuschat.
En Afrique, surtout, le président est naturellement également le chef des forces armées, il a beaucoup de pouvoir. Chez nous, le chancelier a très peu de pouvoir. Dans le domaine administratif, exécutif, il a très, très, très peu de choses. Il est le moteur de la législation, les idées politiques. Il inspire toute la vie politique. Il lance des initiatives. C'est ça son rôle.
Hans Stark, lui, n'est pas non plus favorable à une limite de 2 mandats de 4 ans pour les chanceliers, mais c'est pour une autre raison. Selon lui, cela créerait une situation comparable à celle des États-Unis lorsqu'un président en fin de deuxième mandat n'est pas candidat à sa réélection puisque la loi ne l'y autorise pas et qu'il devient alors un lame duck, un canard boiteux.
Si le mandat se termine obligatoirement après 8 ans, cela veut dire que durant les 2 dernières années du deuxième mandat du chancelier, ce dernier serait déjà considéré comme étant un modèle en voie d'extinction. Donc, il n'aurait pas la force politique nécessaire pour s'imposer. dans un contexte politique en Allemagne qui est compliqué parce qu'il faut s'imposer face aux partenaires de la coalition, au sein de son propre parti, où il y a des courants politiques, face au ministre-président de Länder. C'est pas évident.
Une solution pourrait être de laisser un chancelier effectuer deux mandats, de remporter une troisième élection, puis de céder sa place au milieu de son troisième mandat à un successeur désigné au préalable. Cela limiterait à 10 ans le temps passé à la tête du gouvernement et cela faciliterait aussi la transition. Hans Stark.
Le nouveau chancelier ne serait pas confronté à de nouvelles élections immédiatement, mais après 2 ans d'exercice de pouvoir, pour pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle en Allemagne le Kanzlerbonus, donc le bonus du chancelier. Ça, c'est une des réflexions en cours actuellement en Allemagne.
Un scénario similaire s'est déjà produit dans l'histoire de la République fédérale, rappelle encore le professeur de civilisation allemande. En 1961, Konrad Adenauer n'a obtenu le soutien des députés de son parti que s'il acceptait de céder sa place à mi-mandat à un successeur. Alors certes, il effectuait alors son 4e mandat, mais le modèle a donc déjà été expérimenté en Allemagne. Quel que soit le modèle retenu, Hans Stark et Christian Tomuschat se rejoignent sur un point. Ce n'est probablement pas une réforme constitutionnelle qui déterminera le futur modèle. Allemagne, deuxième partie. Le président américain Joe Biden a passé la semaine dernière le cap des 100 jours à la Maison-Blanche. Depuis son élection, un vent d'espoir s'est levé pour les candidats à l'immigration aux États-Unis. Les annonces d'une politique migratoire plus humaine, après celle de la tolérance zéro de son prédécesseur Donald Trump, font venir des milliers de migrants d'Amérique centrale à la frontière nord-mexicaine, une frontière qu'ils espèrent trouver ouverte, encouragée par les rumeurs des passeurs. Mais cette frontière est toujours fermée et de nombreuses personnes se retrouvent dans des situations compliquées. Ce sont des familles, des personnes seules, mais aussi beaucoup de jeunes mineurs isolés. Environ 1 personne sur 10 qui se fait arrêter en franchissant illégalement la frontière entre le Mexique et les États-Unis est un mineur non accompagné. Leur nombre a fortement augmenté. Ils sont 50 000 à avoir été recensés par les autorités américaines entre octobre et mars, soit 2,5 fois de plus que l'année dernière. La très grande majorité d'entre eux viennent d'Amérique centrale. Ils ont entrepris un voyage dangereux qui se termine très souvent par un échec. Pour tous ceux qui ne parviennent pas à atteindre les États-Unis et qui se font arrêter, commence alors une longue et difficile période d'attente et d'incertitude. Notre correspondante Gwendolina Duval a rencontré quelques-uns de ces jeunes dans un refuge pour migrants mineurs isolés à Ciudad Juárez, dans le nord du Mexique. Voici son reportage.
L'ambiance est étonnamment studieuse dans cette pièce pleine d'adolescents. Tous les jeunes sont ultra concentrés, ils s'appliquent chacun sur leur création, des peintures aux couleurs vives, pendant qu'un écran de télévision les berce en diffusant des clips de reggaeton. Andrel, qui dessina un mariachi, un de ses chanteurs traditionnels du Mexique, a quitté le Guatemala il y a 8 mois. Il a 17 ans, il a traversé tout le pays et il raconte l'épisode difficile de son arrestation quand il a traversé illégalement la frontière américaine.
Le jour même où je suis arrivé, j'ai voulu aller aux États-Unis. Nous étions 4, mais nous n'avons pas réussi car il y avait beaucoup d'agents de la migration. Nous avons voulu courir, mais un garde frontière a sorti un pistolet taser et on n'a pas pu s'échapper.
Attrapé aux États-Unis, Andrel a été emmené dans un de ces centres où les migrants sont interrogés et attendent dans des conditions difficiles. Là-bas, face aux autorités américaines, il s'est bloqué et il n'a pas réussi à s'exprimer.
Ils ne m'ont pas compris parce que normalement je parle un dialecte et le jour que j'ai passé là-bas, je n'ai pas pu parler espagnol. J'ai passé une journée sans manger, sans boire, c'était dur.
Il a donc été ramené et laissé ici au Mexique. Andrel attend des papiers pour sa régularisation, il va pouvoir rester ici.
Je ne veux pas rentrer dans mon pays, non, parce que là-bas je suis en danger. Il y a des gens qui veulent tuer ma famille et moi aussi. Je vais essayer de trouver du travail ici, ça me permettra d'envoyer de l'argent à mon père pour qu'il rembourse mon voyage.
À cause de la pandémie, les refuges réduisent leur capacité d'accueil. Dans celui-ci, à quelques kilomètres seulement de la frontière, en ce moment, ils ne sont qu'une dizaine de mineurs, entre 12 et 17 ans. C'est une goutte d'eau, alors qu'ils sont des milliers à avoir été refoulés des États-Unis. Sans compter tous ceux qui n'atteignent pas le sol américain, Oscar est salvadorien malgré sa grande taille. Il n'a que 15 ans et lui s'est fait prendre au Mexique dès sa sortie d'avion. Dans sa situation, il n'a pas le choix, il le sait, il va être expulsé.
À moi, on m'a dit qu'on allait me renvoyer dans mon pays, mais on va voir comment les choses se passeront à l'avenir pour réessayer. J'espère que la pandémie va se calmer. Je vais attendre un peu avant de revenir et tenter de nouveau ma chance.
Oscar est certain qu'un jour il ira aux États-Unis. Il a quasi toute sa famille comme modèle de réussite. Ses frères et son père, eux, sont déjà de l'autre côté.
Ma mère a décidé avec mon père qu'il valait mieux que j'aille aux États-Unis. C'est la meilleure solution à cause de la situation du Salvador où on peut vous forcer à vous impliquer dans les gangs. C'est toujours mieux que de tomber dans les armes. Si vous voulez un futur meilleur, il faut sortir de ce pays.
En fait, la quasi-totalité des mineurs qui migrent seuls le font pour rejoindre des parents. Quand ils se font arrêter, une procédure de rapprochement familial est possible, mais elle est longue et difficile. Flaco est en plein dedans, ça fait déjà 8 mois qu'il est coincé ici au Mexique. À 16 ans, il est parti du Guatemala très très vite pour échapper à la pression des narcotrafiquants.
J'ai réfléchi toute la nuit, j'ai pensé à tout et le lendemain, j'ai annoncé à mes grands-parents que je partais.
Il fait partie de ces enfants dont les parents ont déjà émigré. Sa mère a refait sa vie aux États-Unis. Aujourd'hui, Flaco veut la voir. Pour lui, ça devient une obsession.
J'ai 16 ans et ça en fait 15 que je n'ai pas vu ma mère ni mes frères. Je ne connais pas mes parents. Aujourd'hui, je suis là pour ma mère, pas pour faire de l'argent, non. J'y vais juste pour ma mère que je n'ai pas vue depuis longtemps. Elle m'a laissé à l'âge d'un an au Guatemala. Je ne l'ai jamais connue, je n'ai que des photos, je n'ai jamais pu l'embrasser, rien. Je n'ai jamais été auprès d'elle et je n'ai jamais senti l'amour de ma mère.
Malgré tout ce qu'il a enduré, Flaco n'a aucune certitude de pouvoir la rejoindre. Il doit encore attendre pour savoir si son dossier sera accepté et s'il pourra entrer aux États-Unis. Dans le cas contraire, il fera le chemin inverse pour rentrer chez lui.
Je ne resterai pas à Mexico. Je rentrerai voir mes grands-parents. Ils n'ont pas pu venir. Ils sont restés là-bas car ils sont malades. Je veux retourner profiter d'eux tant qu'ils sont en vie. Je ne veux pas les laisser seuls. Je ne suis là qu'à cause de ma mère.
Les annonces de l'administration Biden et la promesse d'un assouplissement de la politique migratoire aux États-Unis suscitent l'espoir chez les migrants. Mais de ce côté du mur qui longe la frontière mexicaine, la situation peine à évoluer et en attendant, la condition des mineurs est toujours très précaire. Gwendolina Duval, au retour de Ciudad Juárez pour la Deutsche Welle.
Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce magazine. La semaine prochaine, vous retrouverez Hugo Flotatalon pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss !